France Inter, le 18-20.
Arro sur les technos, alors, c'est ce que dit le monde ce soir. Arro au sein de La République En Marche sur ceux qui pensent trop budget, pas assez social, sur ceux qui pensent techno et chiffres et ne savent pas les traduire dans la vraie vie des gens. Arro, alors qu'Emmanuel Macron essaye de lancer son fameux grand débat dans un contexte, on l'a compris en écoutant les journaux, un petit peu compliqué. Et au fond, l'incident d'hier à l'Assemblée, le reflet de tout cela. Pourquoi maintenir l'extension du chèque énergie ou le doublement de la prime à la conversion puisqu'on a annulé les hausses des carburants? Il a fallu que les élus en Marche se lève et Mathieu Orphelin qui est là en sait quelque chose, disent ça va pas être possible, on est illisible. Je vous passe sur les déclarations plus que maladroites, comme on a sans doute été trop intelligent, fermez les guillemets. La question maintenant, elle est de savoir si tout cela c'est fini, si cette crise des gilets jaunes a permis à La République En Marche de faire son aggiornamiento d'une certaine façon. Est-ce que le bouton reset a été poussé qui remettrait un logiciel en marche? Est-ce que tout cela est en cours? On a entendu de jeunes députés dire leurs difficultés à faire remonter ce qu'ils voient. Est-ce qu'on est entré dans une phase 2 où les élus de terrain peuvent enfin se faire entendre ou se faire mieux entendre? C'est donc dans ce contexte qu'on essaiera d'ouvrir ce fameux grand débat voulu par Emmanuel Macron. Et c'est pour ça qu'on a voulu ce soir, au téléphone sonne, inviter deux députés La République En Marche. L'un, Mathieu Orphelin, qui a déjà fait entendre sa voix parfois dissonante, vous nous direz si c'est le mot qui convient. L'autre, Jennifer de Temmermann, a découvert la fonction il y a 18 mois seulement et c'est pas toujours simple. Comment on avance aujourd'hui quand on est la majorité de terrain, quand on a parfois été conspué, attaqué, pris à partie, mais qu'il faut continuer à discuter dans cette crise-là? Bienvenue dans le téléphone sonne.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Mathilde, c'est vous la première et soyez la bienvenue, on vous écoute.
Bonsoir.
Allez-y Mathilde.
Alors je voulais témoigner puisque contrairement à Mathieu Orphelin et à sa collègue, moi je n'ai pas été élue, j'étais candidate pour La République En Marche aux dernières législatives. Je ne regrette rien du tout et je continuerai mon engagement. Mais oui, il y a un problème au sein du mouvement. Oui, il y a une verticalité qui s'est installée qui n'était pas l'esprit de départ. Parce que nous, les militants de terrain, on n'est pas entendus. On a beau dire, ça fait moi maintenant plus d'un an que j'essaye de dire que ce qui se passe sur mon territoire, territoire rural, et où les gilets jaunes sont et seront encore mobilisés un certain temps, je pense. Et je vois bien que moi, en tant que candidate, je n'ai plus aucun contact en tant qu'ancienne candidate avec l'AREM. Et rien que ça, je trouve que c'est symptomatique. On n'abandonne pas ces candidats, qu'ils soient gagnants ou perdants, malheureux ou heureux, on n'abandonne pas ces candidats. Et ça, ben, si c'est le cas, c'est ce qui s'est passé concrètement.
Vous êtes dans quelle région, Mathilde ?
Dans le Grand Est.
D'accord. Et est-ce que vous, quand vous faites remonter à qui, vous, en fait ?
Ben, il est là le problème, c'est que le référent n'est pas là pour coacher les animateurs locaux. C'est un fait, on est libre, on est censé être libre. Mais du coup, quel est notre interlocuteur? Le QG, c'est un numéro qui ou ne répond pas ou est indisponible. Non, on n'a pas en réalité d'interlocuteur direct. Alors oui, on fait remonter au référent ou à la référente, mais on n'a pas l'impression que ça bouge derrière.
Et merci pour...
Et sinon, c'est des formulaires en ligne qui sont impersonnels et où on se demande vraiment à quoi ils servent.
Vous avez fait sourire Jennifer de Timmermann, vous nous expliquerez pourquoi Jennifer de Timmermann, vous riez en écoutant cette auditrice nous parler des formulaires. Vous êtes élue La République En Marche du Nord, bonsoir à vous, je ne vous ai pas salué, bonsoir Mathieu Orphelin, député de La République En Marche du Maine-et-Loire. Est-ce qu'on se reconnaît, Mathieu Orphelin, dans ce que dit Mathilde, dans ce qu'on a déjà entendu remonter quand on est comme vous, député de La République En Marche? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà entendues, ça?
Non, moi je crois que la situation varie beaucoup d'un département à l'autre. Moi, en Maine-et-Loire, on a une équipe départementale, un référent qui sont très à l'écoute de l'ensemble des marcheurs et des marcheuses. Il y a beaucoup d'opérations de terrain chaque semaine. Et donc moi, je me retrouve pas tellement dans ce que vient de témoigner l'auditrice, même si je sais que la situation est plus ou moins facile d'un département à l'autre. Mais je crois qu'effectivement, dans les départements où il y a des difficultés, il y a un certain nombre de choses qui peuvent expliquer ça, notamment le fait que c'est un mouvement politique un peu nouveau, qui était parti de rien.
Mais et nouveau, donc, ça dure combien de temps nouveau, en fait?
Mais en tout cas, il faut que ça dure le plus longtemps possible. Et je crois qu'effectivement, toutes ces erreurs de jeunesse, entre guillemets, il faut retravailler dessus. Moi, je dis souvent, il faut absolument qu'on fasse progresser En Marche pour retrouver, bien sûr, l'esprit de départ. Mais chacun a une partie de la solution. Moi, je crois qu'effectivement, j'entends les difficultés ici et là, etc. Mais c'est à chacun de pouvoir contribuer à faire qu'effectivement, on retrouve l'esprit de départ. Et surtout, moi, ce qui m'avait plu et qui continue à me plaire, c'est l'idée de gens qui ont envie de faire ensemble.
Mais alors, attendez, et je vous interrogerai là-dessus aussi, Jennifer de Temmermann, juste un mot. Retrouver l'esprit de départ, ça veut dire qu'on l'a perdu s'il faut le retrouver.
Ça veut dire qu'on a un certain nombre de problèmes qu'il y a eu, il faut les regarder en face.
Comme
des crises de croissance dans ce mouvement, le fait effectivement qu'on ait eu un certain nombre de difficultés à faire vivre l'horizontalité. Mais je vous le dis encore une fois, moi, dans le département du Maine-et-Loire où je suis élu, eh bien ça se passe bien. Il y a plein d'opérations, il y a des gens qui sont là, il y a encore beaucoup de marcheurs et de marcheuses qui sont là à chaque fois pour aller voir les gens sur le terrain, etc. J'idéalise pas, mais je dis qu'il y a aussi des belles choses.
Jennifer de Temmermann, je vous voyais réagir. D'abord, est-ce que vous aussi, vous diriez qu'il faut retrouver l'esprit de départ? Est-ce qu'on a perdu quelque chose de l'esprit de départ chez vous?
Alors, Mathieu le disait très bien, c'est très différent selon les territoires. Nous, dans le Nord, ça a été un peu compliqué. On a eu 3 référents en 18 mois. Donc, j'espère que c'est un petit peu stabilisé et qu'on va pouvoir avancer. Le problème, c'est ce qu'il disait, c'est qu'on a voulu faire quelque chose de complètement nouveau, inédit, et peut-être qu'on a eu un peu peur de faire comme les autres, justement, sauf qu'à un moment, il faut regarder la réalité en face. On a besoin aussi d'organisation. Donc,
L'un de vos collègues dans le Monde, qui signait une tribune il n'y a pas si longtemps, c'était le 11 décembre, qui s'appelle Christian Tuderose, parlait de l'ivresse majoritaire. Est-ce qu'il y a eu un moment d'ivresse majoritaire où on a l'impression qu'on a les coudées franches et que du coup on est un peu porté sur un nuage sans trop regarder ce qui se passe autour?
Non, en tout cas moi personnellement je n'ai jamais ressenti cette ivresse. Je suis venue je me suis engagée pour la première fois en politique avec l'inquiétude de voir mon pays dériver vers une forme de populisme qu'on retrouve partout en Europe. Et je suis venue avec un poids, en fait, quelque part. Donc pas du tout une idée de ivresse, ça y est, j'ai réussi à obtenir quelque chose, je suis politicienne, j'existe, c'est pas ça. On vient plutôt avec l'idée qu'on a, on a de grandes responsabilités.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, ne fonctionne pas quand on entend les gens? Alors j'entends bien, comme disait Mathieu Orphelin, qu'il y a des disparités selon les lieux, évidemment, mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, selon vous, ne fonctionne pas quand vous entendez des gens comme Mathilde dire qu'on a du mal à faire remonter les choses, que, effectivement, l'horizontalité qui était celle de la promesse de départ s'est transformée en une très grande verticalité? Vous le sentez, vous, sur votre terrain ou pas?
On a eu du mal à faire remonter certaines choses, mais après c'est parce que les gens ont bougé de place aussi. Nous, notre référent départemental est parti au ministère de la transition économique, écologique et solidaire. Donc du coup, on s'est retrouvé avec une place vacante. Il a fallu trouver, se réorganiser. Ça, c'est un peu compliqué parce que finalement, on est beaucoup de nouveaux.
Ça fait un peu amateur quand je vous entends dire ça. Et ça fait jeune. On est d'accord aussi, si vous voulez. Mais il y a aussi un moment. Ça fait 18 mois, quoi, Mathieu Orphelin, non?
Mais...
Pardon, allez-y, je voulais pas vous interrompre.
Non, je veux dire, ça fait 18 mois et c'est pour ça qu'on voit justement les choses changer. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans la nouvelle nomination, dans le fait que Stanislas Guérini ait repris le mouvement. Ça fait même pas un mois qu'il a été élu et déjà, moi, je vois les choses changer.
Comme par exemple, qu'est-ce qui est différent?
Une organisation, de la communication davantage entre nous. On a des éléments, on a des choses, on nous fait plus de remontées, on a vraiment de la transparence. Depuis un mois.
Qu'est-ce qu'on a appris, Mathieu Orphelin, du coup?
On a appris qu'il fallait être le plus connecté possible au territoire, parce que ça, c'est ce qui avait fait notre force pendant la campagne électorale, d'aller à la rencontre des gens, etc. Et ça, c'est ça l'ADN de départ, et c'est ça qu'il faut qu'on continue à préserver. Il faut que La République En Marche s'ancre dans les territoires. Il faut qu'on continue à tisser ce lien et à être cette courroie de transmission entre les décisions politiques nationales et le terrain, parce que tout ce qu'on a entendu pendant la campagne électorale, c'était toujours les lois, c'est pas adapté à ce qu'on vit sur le terrain. Ben on va essayer de changer ça, mais il faut le faire avec modestie parce que effectivement, on fait suite à tout un tas de formations politiques qu'ont, je crois, collectivement échoué. Je sais pas si nous on réussira, on verra tout ça. Mais en tout cas, effectivement, on est arrivé dans une situation, ben d'ailleurs, qui s'est après cristallisé, où la situation était difficile sur les territoires, la fracture des territoires, l'emploi, etc. Je ne vais pas tout lister, mais effectivement, Aujourd'hui, on doit faire le maximum pour que ce qu'on mette en œuvre change la vie des gens sur les territoires.
Mais Mathieu Orphelin, c'est vous, hier à l'Assemblée nationale, vous faites partie de ceux hier à l'Assemblée nationale, lorsqu'il est question subitement de revenir sur le chèque énergie ou le doublement de la prime à la conversion, c'est vous qui levez la main en disant « Non mais attendez, ça n'a aucun sens ». Et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, vous êtes l'un des premiers à l'avoir dit. Quand ce genre de choses arrive, est-ce que vous vous dites, vous, député La République En Marche, mais non, mais ça ne va pas être possible, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Est-ce que c'est ça que vous vous dites à ce moment-là?
Moi, ce que je me dis à ce moment-là, c'est qu'il y a une décision qui est politiquement pas du tout adéquate. Effectivement, on a été plusieurs députés hier, chacun à sa manière, hein, moi dans un style peut-être un peu plus fougueux que d'autres, mais à dire c'est pas possible politiquement, ça tient pas, parce qu'on avait eu des annonces du Premier ministre très fortes il y a un mois, et là une partie...
Mais est-ce que ça veut pas dire qu'on a du mal à apprendre quand on fait une erreur pareille, honnêtement?
Mais en tout cas, là, le gouvernement a rectifié le tir en moins de 3 heures. Moi, je veux bien qu'on me fasse croire que c'est le couac du siècle, etc. Non, c'était un élément politique, mais je veux dire, il faut voir aussi, je cherche pas d'excuses, mais la somme de décisions importantes qui sont à prendre aujourd'hui par le gouvernement, il y a eu ce petit bug. On a été plusieurs à faire que ça revienne dans le droit chemin. Tant mieux, je veux dire, on est là pour ça, les députés, on est utiles. On nous a dit pendant 18 mois, vous êtes les godillots, vous servez à rien, etc. Et aujourd'hui, on nous dit, mais attendez, expliquez-nous pourquoi sur tel et tel point, on vous entend sortir maintenant. Non, ça fait plusieurs mois déjà qu'on est à porter des sujets. Et moi, je pense que ça doit être... Dans l'année 2019, il faut que le gouvernement et la majorité présidentielle travaillent mieux ensemble. C'est-à-dire qu'on ne soit pas forcément à chaque fois dans cette, des fois, un peu de méfiance ou dire conseillers qui nous disent « Mais attends, enfin, l'impression que j'ai, c'est que certains se disent « Mais pourquoi les députés de la Majo, ils déposent des amendements, etc. » On fait ça parce qu'on veut améliorer les politiques du gouvernement.
Et parce que ça s'appelle faire de la politique. Est-ce qu'on a oublié, Jennifer Timmermans, c'est pas votre métier, la politique, mais à un moment, est-ce que la leçon de tout ça, c'est pas qu'il faut faire de la politique aussi? Il y a aussi un sens noble à politique, hein, c'est pas seulement des tiraillements droite et gauche, mais est-ce qu'il faut revenir à plus de politique pour que ça fonctionne mieux, au fond?
On fait de la politique, on est là pour faire ça, mais politique, le sens grec du terme, c'est la cité. Moi, je suis une citoyenne qui s'est mise à un moment au service de ses concitoyens, et la politique telle que je veux la porter, c'est d'amener la voix des territoires à l'Assemblée. On est là, comme le dit Mathieu, pour améliorer. On n'est pas là pour être en conflit avec notre gouvernement, mais on est là pour lui signaler que ça correspond pas tout à fait à ce qu'on entend sur notre territoire, que nos citoyens, ils ont envie d'autre chose. Et je pense que ce qui s'est passé hier, c'est pas un couac, c'est au contraire la preuve que les députés peuvent tenir.
Donc vous faites de la politique, voilà. Je vous le confirme, Jennifer de Timmermans. Oui, si, ça s'appelle un couac quand même, non? Enfin, moi, vous appelez ça comme vous voulez, c'est pas grave. Mais il y a aussi la lecture qu'on en a partout aujourd'hui, non? Comme vous voulez.
Moi, j'aime retenir le côté positif, c'est qu'on a obtenu gain de cause. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont montés au créneau, parce qu'il y en a qui l'ont fait publiquement, mais derrière, il y avait une foule aussi qui l'a fait de manière plus...
Mais voilà, c'est marrant parce que je vous entends, et tous les deux d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu comme si il fallait presque s'excuser de dire qu'on n'était pas d'accord avec son propre groupe, Mathieu Orphelin.
Non, parce que moi d'abord...
Mais si, on a le droit de pas être d'accord avec son propre groupe,
bien sûr, mais ça fait... Moi, à chaque fois que j'ai eu des... Moi, ce qui me plaît dans la politique, c'est effectivement la politique, faire de la politique, c'est aussi des rapports de force, y compris en interne, etc. C'est ça, faire avancer les sujets, mais on le fait pas pour soi, on le fait pour les causes qu'on défend, l'écologie, la solidarité, pour ce qui me concerne. En tout cas, effectivement, moi, à chaque fois que j'ai eu besoin de porter, souvent avec des collègues, jamais tout seul, mais des positions, je l'ai fait, j'ai jamais reculé devant l'obstacle, parce que je crois que c'est ça la bonne façon de faire. Ce qui fait la force de La République En Marche, c'est la biodiversité des députés et de l'ensemble des personnes qui sont venus dans ce mouvement. C'est pas de toujours voter tous de la même chose, ça c'est pas ça notre force. Notre force, c'est la biodiversité. François Bayrou l'a très bien dit encore ces derniers jours. On est dans cette multitude d'approches et qu'il faut arriver à faire avancer ensemble. Mais c'est très bien qu'on s'exprime sur les sujets, il faut pas qu'il y ait de cacophonie, mais il faut effectivement une majorité. À l'Assemblée, une majorité forte qui porte des options politiques et qui soit dans un vrai dialogue exigeant avec le gouvernement. On réussira ensemble ou on échouera ensemble.
Est-ce que vous avez l'impression parfois d'être devant on a beaucoup employé cette expression, devant une espèce de mur technocratique, en fait, Jennifer de Timmermans? C'est aussi ce qui était reproché lors de l'incident d'hier, c'était de regarder les chiffres, d'avoir une sorte de tableau Excel, en fait, sans regarder ce qui peut se passer derrière. Et c'est aussi ce que dit votre collègue, d'ailleurs, lorsque il signe cette tribune dans Le Monde, où il dit que une réforme, lorsqu'elle doit être acceptée, sa phrase exacte, c'est qu'il n'est de réforme acceptée que parce qu'elle est jugée acceptable, y compris par ceux qui la redoutent. Est-ce que vous avez l'impression de vous heurter à un mur technocratique, vous, député La République En Marche?
C'est pas un mur technocratique. Comme vous l'avez dit, pour ma part, j'ai un peu moins d'expérience que Mathieu. Je suis venue avec des idées, apportées, des opinions. On a des mouvements qui sont divergents et qu'on s'entraîne depuis 18 mois à rendre convergent pour porter un projet qui soit cohérent, qui soit représentatif de la plupart des Français. Mais c'est ça aussi notre société, c'est des idées différentes qui se retrouvent ensemble pour le plus grand bien commun. J'ai pas le sentiment de me heurter à un mur. J'ai parfois peut-être que il faut aussi faire notre mea culpa. On a peut-être parfois un peu manqué, comme vous dites, de technique, mais en tout cas, on n'a jamais été dégodillés. Godillot, ça c'est certain. On a peut-être été maladroit, il faut parfois savoir reconnaître ses défauts, mais on n'a pas su peut-être prendre le mur, comme vous disiez. Mais non, on a vraiment porté des valeurs, et je trouve qu'après 18 mois, justement, on a pris de l'épaisseur. On a appris comment ça fonctionnait, et on a pris toute la mesure de ce qu'on pouvait faire aussi. Parce que quand on arrive, on ne sait pas ce qu'on peut faire. C'est ça aussi. C'est assez étrange comme univers quand vous arrivez à l'Assemblée. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Comment ça fonctionne? Il faut s'approprier ça. On est nombreux à avoir mis du temps à s'approprier les choses. Quand on est de la vie civile, on fonce pas comme ça. On n'a pas l'habitude de se mettre en avant. Mmh. On prend le temps de travailler, de regarder et après de se lancer.
Bonsoir Pierre. Pierre, vous m'entendez ou pas?
Bonsoir France Inter. Oui, je vous entends.
Je vous reconnais, Pierre, vous nous avez déjà appelé il n'y a pas si longtemps sur un sujet un peu similaire, et c'est tant mieux, vous êtes le bienvenu de retour sur Inter. Allez-y.
Merci bien. Bon, je voudrais d'abord faire un petit commentaire sur ce que j'ai entendu de nos deux députés qui sont vos invités. Bon, ils ont parlé de changer le logiciel, ils ont parlé d'une connexion avec le territoire. Bon, puisqu'ils aiment la métaphore avec l'informatique...
Non, c'est moi la métaphore, je reconnais que c'est moi qui l'ai employé, la métaphore informatique. Mais allez-y, Pierre.
Oui, mais enfin, ils en ont quand même parlé, hein, logiciel, connectique, j'ai entendu ces mots dans leur bouche. Bon, j'aurais simplement à leur dire très rapidement, bon, il faut carrément faire un formatage bas niveau de votre mouvement En Marche, parce que, bon, moi je considère que votre discours ne m'a pas du tout convaincu pour l'instant, celui d'aujourd'hui, je parle. Et donc, je crois qu'il va falloir sérieusement changer, parce que ce n'est pas de l'amateurisme, comme vous avez dit, vous, en tant que journaliste, c'est carrément de la compétence. Parce qu'on peut être nouveau, mais ça n'empêche pas d'étudier les textes. Bon, je rappellerai simplement qu'il y a eu une excellente émission qui existe encore, qui s'appelle Les Pieds sur Terre sur France Culture. Ils ont suivi pendant un certain temps 3 députés de En Marche sur ce qu'ils avaient fait à l'Assemblée nationale. Je les ai entendus sur le sujet de la loi travail. Mais alors, ils étaient d'une incompétence.
Mais Pierre, tout le monde n'a pas entendu l'émission dont vous parlez, donc je suis pas sûr que ça parle aux gens qui nous écoutent là. Non, je vous le dis juste.
Simplement pour dire qu'il y a des preuves de cette incompétence. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être nouveau, on peut faire des erreurs, mais on ne vote pas une loi quand on ne connaît rien. Ça, c'est déjà un premier sujet. Alors, d'une autre part, bon, tout ce que j'ai entendu, nous avons rencontré en tant que Gilets jaunes une déléguée de En Marche.
Rappelez-nous où vous êtes. Rappelez-moi où vous êtes, Pierre, j'ai oublié où vous étiez.
À Dol de Bretagne.
Ah oui, c'est vrai. D'accord.
Donc, elle est venue, et le discours qu'elle a prononcé, eh bien, je l'ai entendu dans la bouche de tous les députés de l'EREM qui sont intervenus en radio ou en télévision. Hein. Donc, ils font très très attention à ce qu'ils disent. C'est pratiquement un discours appris par cœur, par tous, quoi. Alors... Donc, c'est inaudible.
On a entendu ce que vous nous disiez, Pierre, et merci de votre appel. Jennifer de Temmermann, comment on fait quand on est député depuis 18 mois pour se confronter à cette crise-là? Les Pierres, là, vous en aviez sur vos ronds-points, vous. Oui. Vous êtes allé au contact avec les Pierres. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous lui dites à lui qui dit, comme d'autres que vous avez probablement chez vous, moi j'y crois toujours pas, j'ai pas entendu ce que je voulais entendre, ça marche pas comme je le voudrais. Qu'est-ce que vous lui dites à Pierre?
Moi, j'ai pas entendu le même genre de discours. Très clairement, pour moi, chez les Gilets jaunes, il y a des courants aussi. Il faut le reconnaître. Je suis allée faire la tournée des ronds-points. Je suis allée rencontrer les gens. Je les ai réunis dans ma permanence. On a échangé. Quelque chose qui m'a frappée, c'est le fait qu'ils n'étaient pas au courant de ce qu'on faisait. Et quand je leur ai dit, bah, par exemple, vous êtes au courant de la réforme constitutionnelle, vous savez qu'on a pour projet de transformer le CESE en chambre de la société civile, est-ce que ça correspondrait pas un petit peu à ce que vous avez envie, ce que vous portez? Ils m'ont dit, tiens, c'est marrant, on n'en a pas entendu parler. Je leur ai dit, bah oui, bah, j'ai fait deux ateliers quand même dans ma circonscription. J'en ai fait un dans une grosse ville, à Nieppe, j'en ai fait un dans un petit village, à Zermezel. J'ai eu entre 20 et 60 personnes, j'ai pas eu grand monde. C'est dommage. Et pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, là, c'est un peu une chance. Mmh. C'est la possibilité d'aller raccrocher ces gens et de les faire venir et de leur dire, mais vous réclamez qu'on vous entende, venez me parler justement. Moi, je vous propose ça, 10 ateliers en 18 mois. C'est quand même pas
rien. Est-ce que vous les voyez plus? Est-ce que, alors, les cahiers de doléances, on en a beaucoup parlé, ils sont surtout posés chez les maires aujourd'hui, mais ça remonte évidemment un moment vers vous, les députés. Est-ce que vous les voyez plus? Est-ce que vous avez le sentiment que ce moment citoyen, il existe sereinement ou pas?
Moi, en tout cas, j'ai...
Il y a du monde aux réunions chez vous maintenant, Jennifer de Temerman,
alors,
ou pas?
La prochaine réunion, ça sera en janvier, donc je vous dirai si on a un peu plus du monde. Mais en tout cas, un rendez-vous a été pris, il a été fixé avec les Gilets jaunes. En janvier, on va travailler ensemble sur la réforme constitutionnelle. Je leur ai remis un document pour leur expliquer, pour leur mettre les grandes lignes. Après, je leur ai donné le lien vers le texte pour qu'ils puissent aller voir directement le texte. S'ils sont suffisamment capables et compétents pour aller voir eux-mêmes, ils n'ont pas besoin que je leur dise ce qu'il y a dedans. Mais je leur ai donné l'information où trouver le texte. Peut-être que le site de l'Assemblée mériterait justement d'être fait parce qu'il n'est pas assez lisible pour les gens. Et on a des ateliers prévus et j'ai le sentiment, moi en tout cas, d'avoir établi un dialogue. Et finalement, c'est très positif pour moi. Il va falloir qu'on transforme cette énergie. Le monsieur parlait d'informatique. Mmh. Finalement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est on arrête avec nos téléphones, on arrête avec notre écran, justement, on déconnecte des réseaux, on revient dans la réalité, on se rend compte en vrai, hein, et on parle. Et ça, c'est formidable. Je trouve qu'il faut qu'on surfe là-dessus et qu'on continue, qu'on déconnecte. Du virtuel et qu'on revienne dans le réel.
Mathieu Orphelin, il y aura forcément un avant et un après Gilets jaunes à La République En Marche et dans votre manière de travailler, ou pas. Est-ce que, pardon de revenir là-dessus, la scène qui s'est passée hier à l'Assemblée par exemple, est-ce qu'elle aurait pu avoir lieu sincèrement et fonctionner aussi bien, vous avez dit en 3 heures les choses ont changé, sans l'épisode des Gilets jaunes?
Je crois qu'on a, contrairement à ce que beaucoup pensent, on a réussi à se faire entendre dans les 18 premiers mois, texte après texte, moi je peux vous dire, sur la loi agriculture, sur la loi immigration, sur la loi travail, à chaque fois ce que l'Assemblée nationale a apporté. Chacun peut après juger si c'est suffisant ou pas suffisant, mais voilà. En tout cas, là on est quand même peut-être dans une nouvelle étape du quinquennat, et tant mieux à la rigueur, où à la fois, ça fait 18 mois qu'on est là, le gouvernement, la majorité, on peut faire le bilan de ces 18 premiers mois, et puis d'essayer de faire mieux pour la suite du quinquennat. Il reste 3 ans et demi, c'est beaucoup. Et donc moi, tant mieux, moi je trouve ça très bien qu'effectivement, il y a eu la crise des Gilets jaunes, ça a permis d'avoir cette période très difficile, mais d'en sortir par le haut, avec ce dialogue, avec ce grand débat sur le territoire, moi j'y crois beaucoup, et tant mieux si... On apprend aussi de ces erreurs, très concrètement. Beaucoup de corps intermédiaires, les syndicats, etc., ont dit, le gouvernement, la majorité, vous n'avez pas assez travaillé avec nous dans une méthode de co-construction. Vous nous avez beaucoup consulté sur des textes, etc., mais pas vraiment co-construit avec nous. Moi, je dis banco, allons-y, travaillons mieux avec les syndicats, avec les associations, avec les élus locaux, etc. Retrouvons la confiance, retrouvons l'envie de co-construire ensemble et ajoutons aussi le volet citoyen direct, parce qu'effectivement, moi, j'aimerais bien discuter avec monsieur de son jugement qui me paraît un peu rude pour les députés, quel que soit ceux de La République En Marche ou pour les autres, etc. J'ai envie qu'on profite de cette sortie de Gilets jaunes pour inventer aussi une meilleure démocratie participative. Parce que là-dessus, en France, on a beaucoup de retard par rapport à d'autres pays.
Et donc oui, au RIC, c'est ça que vous dites, Mathieu Orphelin,
le référendum d'initiative citoyenne. Moi, j'ai pas d'avis tranché sur le sujet, mais je trouve que c'est très bien qu'on en débatte, là, justement, dans les mois à venir. Moi, j'ai proposé aussi, avec d'autres élus, on a proposé, pourquoi pas une assemblée citoyenne. 577 citoyens tirés au sort, avec la méthode des quotas, qui soit représentatif, et qui pourrait donner 2 ou 3 fois par an, sur des grands textes ou des grandes options politiques, un regard citoyen. Parce qu'à chaque fois, on nous dit, c'est pas assez connecté à ce que pensent les gens, etc. Ça pourrait être un outil parmi d'autres. Je crois assez, comme l'a dit ma collègue Jennifer de Temerman, à cette idée de dire, ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve le sens du dialogue en face à face, de l'échange. Ça, c'est très important. Et d'arriver à restreindre ce fossé qui ne fait que se creuser entre les citoyens et les responsables politiques nationaux. C'est pas nous qui l'avons. On est là à cause de ça.
Non, mais est-ce que c'est pas là l'erreur en fait, ou en tout cas le but au départ, c'était de le combler ce fossé-là en faisant de la politique différemment. Est-ce que au fond, ce que ne sont pas en train de vous dire les gilets jaunes ou équivalents, c'est pas ce fossé n'a pas été creusé, n'a pas été comblé. Au contraire, il a été plus creusé. Et au fond, la différence avec les autres, on la voit plus. On la voit pas.
Eh ben. Partons de ce constat d'échec pour l'instant pour faire qu'on change les choses dans les 3 ans à venir. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur cette démocratie participative, sur réinventer le travail collectif, sur le sens du collectif, du dialogue, etc. On n'est pas à la fin du quinquennat. On est à 18 mois. Il reste les 2/3 du quinquennat. Donc on y va, on continue, on apprend de ce qu'on a bien fait, de ce qu'on a mal fait et on améliore les choses.
Allez, justement, pour changer ou améliorer les choses, je ne sais pas, voici Christine. Et jetez-vous à l'eau pour lui répondre sur franceinter.fr. Je pense que notre président, dit-elle, est très mal conseillé. Comment peut-on faire de pareilles erreurs? Faut-il changer des choses dans l'entourage d'Emmanuel Macron? Diriez-vous, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, Mathieu Orphelin, est-ce qu'il est trop seul ou entouré de trop peu de gens, le président Macron?
D'abord,
vous avez lu comme moi, notamment, il y a eu beaucoup de papiers sur Alexis Colère et le côté extrêmement technocratique de ce monsieur. Est-ce qu'il faut changer cet entourage précis-là et très proche-là ?
Non, bah, je crois que le risque, et d'ailleurs, c'est pas la situation actuelle, mais le risque des présidents, des ministres, etc., c'est effectivement d'être pris dans ce tourbillon des décisions. Non, mais c'est assez dingue, là, par exemple, sur les derniers 15 jours, là. Il y a 10 jours, il y a la décision, les annonces du président, et là, dès demain, on vote à l'Assemblée le texte. C'est arrivé que 2 autres fois dans toute l'histoire de la Ve République que ça aille aussi vite. Donc, ils sont tous sur un rythme qui ne facilite pas le travail apaisé et je pense qu'il ne facilite pas les bonnes décisions. Il y a ce trop tout le temps et je pense que par exemple le fait de dormir 3 ou 4 heures par nuit, ce qui est le rythme de beaucoup de conseillers, c'est pas tenable sur le long terme.
On réfléchit mieux à plusieurs
dans un cadre apaisé. Je pense que les grandes décisions, c'est encore plus compliqué de les prendre quand on est dans ce rythme du trop tout le temps. Et moi, je pense que c'est une question aussi de rythme de la décision politique. On est dans une société où tout se sait tout de suite, où il faut avoir des réponses à tout, tout le temps. Je pense que de retrouver, moi, je pense qu'ils peuvent tous, un vœu pour le début de l'année, c'est que ce soit plus apaisé et qu'on prenne un peu plus de recul par rapport à chaque fois à la situation. Donc voilà, je crois que je souhaite à tous les ministres, à tous leurs conseillers, de pouvoir retrouver le sens du temps long et le sens du calme. Parce qu'on prend les meilleures décisions dans le calme, pas dans des épisodes comme hier. Donc,
voilà, c'est élégamment dit pour dire qu'effectivement, il y a des moments de pur énervement quand même, ou des moments où cette équipe et ce fonctionnement ne marchent pas. Non.
Et ça a toujours été ça en politique. Je me rappelle cette belle phrase de Philippe Mérieux qui parlait des régionales en Rhône-Alpes et qui disait... Tous ces conseillers dont on a toujours l'impression qu'à tous les moments, ils règlent le conflit israélo-palestinien. Je trouvais l'image assez belle parce que ça montre qu'on a besoin chacun de prendre un peu de recul, se remettre par rapport aux grands enjeux reprendre le temps de prendre les bonnes décisions.
Jennifer de Temmerman, je vous voyais intervenir.
Non, mais je pensais à ce proverbe latin en fait, festina lente. Hâte-toi lentement. En fait, on est dans une accélération du temps parce que les Français attendaient depuis plus de 30 ans que ça change, que ça aille plus vite. Et en même temps, finalement, on se rend compte qu'on va trop vite. Du coup, on prend pas le temps d'expliquer, de dire ce qu'on a fait, de dire surtout. C'est pas une question de pédagogie, c'est simplement dire. Vous savez qu'on a fait ça.
Parce que l'idée de la pédagogie a été très mal perçue aussi, et pour le coup, c'est quelque chose que chacun peut comprendre. L'idée que les gens ont pas bien compris. Bien sûr que si, les gens comprennent.
C'est pas de la pédagogie, c'est pas expliquer, c'est simplement dire ce qu'on a fait. Par exemple, j'expliquais. Vous savez que on a la première loi qu'on a fait, c'était quand même réduire un certain nombre d'avantages des députés. Par exemple, des parlementaires. On a réduit nos avantages pour la retraite. Les Français, les gilets jaunes que j'ai eu en face de moi ne le savaient pas. Parce qu'on n'a pas simplement pris le temps de leur dire. Pas de leur expliquer, juste leur dire. Ils sont suffisamment intelligents pour comprendre. Il suffisait juste de prendre le temps de leur dire. Donc il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre entre avancer, réformer, mais tout en disant quand même ce qu'on fait et en le faisant de manière suffisamment posée pour que ça soit... à la fois visible et intelligible.
Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur Inter, Nicolas, on vous écoute.
Oui, merci. Donc je viens d'entendre des choses intéressantes, des citations latines, des décisions qu'il faut prendre sur le temps long. J'aimerais entendre aussi une certaine symbolique dans les décisions politiques. Je pense que cette symbolique n'a pas été atteinte lors de l'intervention télévisée de Monsieur Macron. Je me considère comme disons un bobo de gauche, un bobo socialiste, avec des revenus salariés relativement importants. Pourtant, j'ai pas voté Monsieur Macron au premier tour. J'avais voté pour Monsieur Hamon. Je me suis rabattu sur Monsieur Macron pour éviter d'avoir Marine Le Pen en tant que présidente. J'ai été agréablement surpris par la politique de Monsieur Macron, disons pendant un an, jusqu'à une loi qui m'a alerté, disons qui m'a fortement déçu contre les lanceurs d'alerte. Ensuite, j'ai pas soutenu le mouvement des Gilets jaunes. Mais comme je viens de le dire, j'étais très déçu par le discours de Monsieur Macron. Il y a une symbolique qui a été fortement loupée à ce moment-là, c'était l'impôt sur la fortune. Et donc la question que j'ai aux députés qui sont là, c'est j'ai l'impression que le mouvement est très technique, technocratique. Il n'y a aucune valeur symbolique. Et les députés ne font que suivre, disons, des instructions données par l'entourage du président. Et j'aurais souhaité une inflexion beaucoup plus à gauche. Je suis déçu d'entendre parler de noms comme Monsieur Sarkozy, que le Premier ministre reste en place. Et donc, elle est où cette symbolique de gauche qu'on attend, enfin qui avait été annoncée en plus lors de la campagne présidentielle.
Et merci pour votre témoignage et pour votre appel, Nicolas. Mathieu Orphelin, sur le symbole, en fait. Là, en l'occurrence, on est en train de parler de l'impôt sur la fortune. D'abord, très concrètement, fallait-il revenir sur ce symbole, selon vous, ou pas?
En tout cas, là, on l'évalue. Et je crois que c'est important parce qu'effectivement, il faut voir cette mesure qui avait été prise, qui était dans le programme. On l'a pas découvert, hein. On l'a portée pendant la campagne. Voilà. Bon, c'était pas forcément la mesure que je préférais dans tout ce qu'on portait, mais en tout cas, elle était là. Hein. Je l'ai pas découvert. Par hasard. Hein. Donc voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'évaluer et voir si ça a permis de faire ce pourquoi ça a été mis en place,
c'est-à-dire mieux
financer l'économie réelle. Là, sur le symbole, dans les mesures annoncées par le président de la République et le Premier ministre, il y a des symboles qui reviennent, notamment quelque chose qui était très important pour moi, la justice fiscale, et faire qu'enfin les très grandes entreprises vont contribuer, la taxe sur les géants du numérique, la fin de la niche Copé pour les holdings financières, et puis la contribution des très grosses entreprises. Tout ça, ça contribue au financement des mesures pouvoir d'achat qui aujourd'hui vont être votées demain pour les retraités et les travailleurs. Donc ça me paraît aller dans le bon sens. Après, voilà, je crois que sur l'impôt sur l'ISF, eh bien, il faut l'évaluer et prendre les bonnes décisions si jamais l'évaluation montrait que ça n'a pas eu l'impact qu'on voulait.
Mais ce que dit
j'entends
Nicolas,
les symboles,
ouais, Nicolas dit qu'on gouverne aussi avec
non,
des symboles.
Bien sûr, et puis je crois qu'il ne faut pas se cacher, je crois que même le président de la République l'a dit, il y a eu ces petites phrases, il y a eu un certain nombre de mesures dont l'ISF et le fait peut-être d'avoir fait l'ISF avant les mesures qui étaient pour les gens. Je crois que là, il y a effectivement dans le calendrier de ce qu'on a fait, il y a sûrement eu une erreur. Et puis aussi, autre chose, c'est qu'un certain nombre des mesures qu'on a fait pour les gens, importantes, par exemple la baisse de la taxe d'habitation...
Ça dure 3 ans.
On l'a fait en 3 fois, exactement, sur le rehaussement du minimum vieillesse, en 3 ans, sur la hausse de la prime d'activité. Bon, là, on vient de mettre le coup de booster, mais là aussi, c'est dans 3 ans. On a un peu saucissonné les mesures qui changent la vie des gens, et ça n'a pas aidé au fait que ces mesures soient vraiment très claires. Il faut l'avouer, là, je crois qu'il y a eu... Par contre, souvent, les gens, les Gilets jaunes ou d'autres, me disent « Ah ben ça, par contre, l'ISF, vous l'avez fait au début. » Donc voilà. Il n'y a pas que des symboles, la politique ça doit pas être que des symboles, mais j'entends bien que pour certains, cette question de l'ISF est devenue, et c'est pas péjoratif ce que dit, mais le totem du fait que la politique qu'on met en œuvre ne peut pas marcher
sur les...
Mais
du coup, est-ce qu'il fallait pas renoncer au totem, comme vous dites, enfin, et l'enlever? Est-ce que vous auriez aimé entendre ça, Jennifer de Timmermans? Peut-être que ça aurait...
Non, moi je suis satisfaite par le fait d'avoir entendu qu'on allait l'évaluer. C'est ce que j'ai porté. On ne fait pas une politique pour au premier coup de... Voilà, de cri, abandonner ce qu'on a fait et puis vite revenir en arrière. On a souffert de ça pendant 30 ans, les gens qui font quelque chose et qui le défendent et que ça râle un peu trop dans les chaumières, si je puis me permettre cette expression. Là, on a une évaluation qui est annoncée et ça fait partie du rôle des parlementaires d'évaluer. C'est un rôle qu'on sous-estime trop souvent. Il faut qu'on s'en empare davantage. On va l'évaluer. J'ai entendu parler à partir du 20 décembre. On va vraiment voir si ça a porté ses fruits. C'était un pari aussi, l'ISF.
On a avancé d'une année cette évaluation, en fait.
Voilà,
2020, c'est 2019.
Oui, mais c'est important. Mais après, c'est un pari aussi. L'objectif, il a été dans la campagne, c'est que de réorienter les capitaux vers du productif, au lieu que ça reste dans l'immobilier, que ça ne serve à personne. C'est un pari qui est osé. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément partagé par tout le monde. Mais là, on va l'évaluer. Et si on se rend compte qu'au final, ça n'a pas fonctionné, on sera les premiers à monter au créneau, croyez-moi, pour obtenir la suppression de cette mesure.
Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui. Allez-y, on vous écoute. Soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Ben déjà, je vous remercie de votre émission. Moi, ce que je veux dire, une chose très simple. Là, on est vraiment dans une crise politique de fond. C'est pas politicienne. Qu'est-ce qui s'est passé, d'après mon point de vue, quand on est passé du septennat au quinquennat, on est arrivé à quoi? On est arrivé à un président qui est élu, après qui a une majorité écrasante, et puis après on est parti comme ça, et plus personne ne peut rien dire. C'est ça qui se passe. moi, je suis pas gilet jaune, mais je les fréquente beaucoup, je les soutiens. C'est ça qu'ils me disent. Voilà. Bon, donc, quelle est la solution? Je ne la connais pas. Mais en tout cas, reposer le problème de la démocratie. Si on remonte à Athènes, qui est le berceau de la démocratie, voilà, on peut se poser beaucoup de questions sur la démocratie représentative. Il faut les poser, il faut prendre le temps. La démocratie, elle a besoin de temps. Mais là, on est en pleine crise de fond. Merci à vous.
Merci pour votre témoignage. Je voudrais qu'on enchaîne avec Philippe, puisqu'on est en train de toucher à la fin de cette émission. Philippe qui n'est pas encore tout à fait en ligne, pardon. Juste pour répondre à ce que disait l'auditeur à l'instant, Mathieu Orphelin. Oh, c'est vrai qu'on entend beaucoup, quand on parle de repenser la démocratie, on entend beaucoup des regrets de septennat. Vous avez entendu ça vous aussi ou pas?
Franchement, non. Moi, c'est pas quelque chose qui revient. J'ai eu des échanges avec des centaines de gilets jaunes. Jamais une fois j'ai eu ce. Mais voilà, c'est pas représentatif forcément, mais.
Je l'ai pas eu sur mon territoire. J'ai pu le voir partagé sur les réseaux sociaux. Je tiens quand même à rappeler que les périodes de cohabitation en France, ça n'a pas forcément été les périodes où on a avancé le plus et où on a bougé et fait des grandes choses au final. Ça a même plutôt été assez. Assez négatif. Donc, on peut regretter ça, mais après, j'ai envie de dire, les gens ne sont pas obligés non plus de donner une majorité écrasante au président qui vient d'être élu. C'est le choix qui leur appartient. Ils mettent le bulletin qu'ils veulent dans l'urne au moment des législatives.
Quelle est la vraie raison pour laquelle le fameux grand débat est remis d'un mois? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt à lancer ce grand débat alors que c'est précisément ce que les gens réclament?
D'abord, il va avoir lieu, tant mieux, je crois qu'il faut que ce soit un vrai débat et qui débouche sur des engagements fermes du gouvernement, de la majorité pour changer les choses, sur la fiscalité, sur la transition écologique, etc. etc. Moi, ça ne me choque pas qu'il y ait 15 jours, 3 semaines pour fixer les bonnes règles, parce que bien sûr qu'il y aura la biodiversité des actions, ça c'est très bien, mais c'est aussi bien qu'il y ait un cadre pour que chacun puisse se sentir entendu, pour que ces remontées de toutes ces actions de terrain qu'il va y avoir dans le grand débat, elles soient remontées de façon équitable. Et moi je trouve ça très bien que la Commission nationale du débat public dise au gouvernement, attendez, on va fixer un certain nombre de règles pour que simplement ce soit un vrai débat impartial.
Mais est-ce que vous savez déjà, vous les députés, comment vous faites avec ce que vous avez entre les mains, à qui vous le donnez, comment tout ça va être le process, puisqu'on parlait d'informatique tout à l'heure, comment ça marche, quelles idées sont retenues, par qui, à quel moment, est-ce que vous savez tout ça? Est-ce qu'on vous a expliqué, vous les députés de terrain, ce que vous allez faire avec tout ce que vous avez engrangé ces dernières semaines?
Bon, déjà, il faut savoir que le grand débat, il a été très clair qu'on a fait un appel aux maires. D'accord.
On est d'accord, mais voilà. Vous êtes la strate du dessus.
Voilà.
D'après.
Pas au-dessus des maires.
D'après.
Non, on n'est pas.
J'ai compris que les maires étaient redevenus
oui, contrairement
au centre du village.
Contrairement. Penser la France.
Oui, oui, pas de souci.
Contrairement à ce que pensent beaucoup des citoyens, on n'a pas d'ordre à donner à nos maires. Au contraire. Enfin, moi, j'essaye d'avoir une démarche constructive avec les maires de mon territoire. C'est peut-être plus facile dans un territoire rural où les maires en général n'ont pas d'étiquette.
Mais le lien, La République en Marche, c'est vous. Donc le lien, vous l'avez. Est-ce que vous savez ce que vous faites avec ces revendications, avec ces questions, avec ces idées?
C'est bien pour ça justement que, comme vous le dites, il est reporté. C'est pour qu'on puisse avoir les modalités les meilleures. Parce que si on se précipite là encore et qu'on se lance dans un truc, on ne saura pas ce qu'on va faire des choses et on fera n'importe quoi. Moi, je pense qu'il est temps d'attendre, de se poser, de réfléchir à comment on organise les choses au mieux. Il est temps aussi, excusez-moi, mais c'est bientôt Noël, il est temps aussi que les gens puissent s'apaiser et profiter un petit peu de leur famille, des fêtes. Et pouvoir après avoir un dialogue constructif.
Et ce sera le mot de la fin, on aura l'occasion de revenir sur cette discussion à de nombreuses occasions, j'en suis sûre. Merci à tous encore une fois et portez-vous bien.